Ce matin, nous allons poursuivre notre lecture de la lettre aux Éphésiens, et ce matin, nous irons dans le chapitre 5. Donc, vous pouvez vous procurer une Bible, si vous n'en avez pas, il y en a comme ceci au fond. Et en plus, si vous prenez une Bible comme ça, vous pouvez l'ouvrir à la page 769 et vous tomberez droit sur le texte. Cinquième chapitre de la lettre aux Éphésiens. Et il me semble que le but que Dieu poursuit par l'intermédiaire de cette lettre, c'est d'amener chacun à prendre conscience de qui il est en Christ, de qui il est vraiment, afin de pouvoir rentrer pleinement dans la vie nouvelle. Et juste avant le passage que nous allons lire, Dieu nous avait déjà exhorté à renoncer à notre ancienne manière de vivre afin d'adopter la manière de vivre de Christ. Abandonner notre vieil homme, notre vieille nature, pour revêtir l'homme nouveau. Eh bien, Paul poursuit sa lettre. Je vais donc commencer ma lecture au premier verset. Nous lirons ce matin les 14 premiers versets. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. » Si nous prenons un peu de recul et que nous observons ce texte, nous pouvons discerner trois parties dans ce passage. Dans les versets 1 et 2, Dieu commence par nous dire les grandes lignes de ce qu'il attend de nous. Nous devons suivre l'exemple de Christ. C'est ce qui lui plaît, c'est ce qui lui est agréable. Ensuite, du verset 3 à 13, Dieu nous dit ce qui ne lui plaît pas, ce qui n'est pas compatible avec notre amour pour lui. Et là, trois grandes familles de péchés sont mentionnées, et c'est de ces trois grands types de péchés que découlent pratiquement tous les autres. Il est question, au verset 3 et au verset 5, d'immoralité. Alors, l'immoralité, c'est le mot qui est employé pour décrire toute forme de sexualité qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu. Parce que pour l'expression de notre sexualité, Dieu a prévu un cadre exclusif d'amour sécurisé. Et ce cadre est exclusivement prévu pour un homme et une femme. Et ce cadre est sécurisé par le plus haut degré d'engagement qu'un homme et une femme peuvent prendre l'un envers l'autre pour la vie. C'est un engagement officiel qui est pris en public afin de bien le témoigner de cela. Et dans notre culture actuelle, dans notre pays, cela correspond au mariage entre un homme et une femme. Même si, bien sûr, nous constatons que le mariage, maintenant, beaucoup de gens n'en font plus tellement de cas. Et que, justement, souvent, les couples chrétiens, pour marquer encore un degré plus haut d'engagement, font la décision de faire en plus une cérémonie à l'église devant Dieu, où ils prennent, en règle générale, encore d'autres engagements. Eh bien, en dehors de ce cadre-là, l'expression de la sexualité est contraire à la volonté de Dieu. C'est de l'immoralité. Il est également question d'impureté. Alors, l'impureté, c'est lorsque nos sentiments, nos pensées, nos actions sont motivés par notre propre intérêt au détriment de notre amour pour Dieu, qui doit passer en premier, et également au détriment de notre prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes. Il est question d'impureté lorsque tout n'est pas totalement juste, tout n'est pas totalement bon ou tout n'est pas vrai dans ce qui nous motive. Il y a des choses cachées, des choses qui ne sont pas justes. Il est également question de la soif de posséder. Alors là, la soif de posséder, c'est lorsque notre besoin de sécurité, notre valeur, notre espoir est placé dans autre chose que Dieu. C'est une sorte de quête du bonheur où il nous faut toujours quelque chose de plus pour être heureux. Plus d'argent, plus de loisirs, plus de reconnaissance sociale de la part des autres, plus de pouvoir, plus de biens matériels. C'est-à-dire qu'en termes d'importance, nous plaçons une de ces choses avant Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Et bien de ces trois grandes familles de péchés, immoralité, impureté et soif de posséder, découlent la plupart des autres péchés. Et commettre ces péchés ou être prêt à le faire, parce que des fois, non, on ne pêche pas, mais par exemple, on peut ne pas voler, non pas parce que nous sommes honnêtes, mais parce qu'on a peur du gendarme. Dieu lui voit nos cœurs. Et ce qu'il voit, c'est qu'en fait, ce qui nous retient, ce n'est pas un amour de justice, c'est la peur. Eh bien, être prêt à commettre le péché, même lorsque on ne le fait pas, ou bien ne pas lutter contre ces péchés, est considéré dans ce passage comme des œuvres des ténèbres. Quelque chose de complètement stérile qui s'oppose à la vie avec Dieu. Il nous est dit que ceux qui appartiennent au Seigneur doivent sortir des ténèbres pour, au contraire, marcher dans la lumière. Discerner et accomplir ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire, selon le verset 9, ce qui est bon, juste et vrai. Mais pas selon nos propres valeurs ou nos propres désirs, mais ce qui est vrai, bon et juste selon Dieu. Et c'est la dernière partie de notre passage qui nous donne le cap. Les étapes à suivre afin de pouvoir rentrer véritablement dans la vie chrétienne. Et le verset 14, s'appuyant sur tout ce qui a été dit précédemment, déclare « C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. » Afin de rentrer dans le plan de Dieu pour nous, afin de goûter à la vie nouvelle qui nous est accordée en Christ, afin d'être fidèle à notre vocation, à notre appel, Dieu dit à chacun de nous, réveille-toi, relève-toi, et alors Christ t'éclairera. Eh bien, ce sont ces trois mouvements ou ces trois étapes indispensables à la vie en Christ qui vont être les trois points de notre prédication. Tout d'abord, réveille-toi, toi qui dors. C'est comme si Dieu disait à chacun de nous, sors de ton engourdissement spirituel. Parce que nous pouvons être chrétiens, et un chrétien endormi. Est-ce que nous n'avons pas parfois tendance à nous endormir spirituellement ? À certains moments de notre vie, voilà, on se laisse un peu porter, on dort un peu. Alors, c'est quoi un chrétien endormi ? Alors, un chrétien endormi, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et en Jésus, mais qui n'est pas animé par la vie de l'Esprit de Dieu. Il est comme, qui dirait, éteint. Il est déconnecté de Dieu, il est devenu passif, un peu comme mort. Et notre passage indique, lui, ce qui caractérise la véritable vie avec Dieu et ce qui devrait être ce qui anime notre propre vie. Verset 1, soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher à faire dans sa vie ? À imiter Dieu. Si notre but de tous les jours, nous qui nous disons chrétiens, si notre but n'est pas d'imiter Dieu, nous sommes spirituellement endormis. Mais alors c'est quoi, imiter Dieu? Eh bien le verset 2 nous le dit. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Imiter Dieu, c'est marcher sur les traces de Jésus. C'est chercher à vivre comme Jésus ferait à notre place. Et par rapport aux trois familles trois grandes familles de péchés, on peut dire par exemple que lorsqu'un chrétien considère que lui-même ou bien qu'un autre chrétien peut avoir une sexualité en dehors du strict cadre du mariage hétérosexuel, il est spirituellement endormi. Lorsque nous pensons qu'il est possible d'être chrétien et en même temps de faire, par exemple, des choses que Dieu ne considère pas comme pures, lorsqu'on pense que c'est compatible, c'est comme si nous étions anesthésiés. Des fois, par exemple, on veut parvenir à un certain résultat et pour cela, on est prêt à mentir, tricher, manipuler les autres. Des fois, on se dit, mais comme le résultat est bon, Dieu est d'accord avec cela. C'est comme si un grand somnifère coulait dans nos veines et nous sommes déconnectés de Dieu parce que Jésus ne ferait pas ça. Lorsque c'est la soif de posséder qui nous anime, lorsque c'est là où nous mettons notre espoir, nos pensées vont là, eh bien nous sommes déconnectés de la vie de Dieu. Ce n'est pas l'esprit qui nous anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu plus exactement qui nous anime, mais c'est l'esprit du monde. C'est le signe que soit l'esprit de Dieu n'est pas en nous, soit nous l'avons éteint. Parce que malheureusement, nous pouvons éteindre l'esprit de Dieu qui est en nous. Le verset 3 nous dit comment nous devons vivre. Nous devons vivre d'une manière qui convient à des saints. Alors cela n'apparaît malheureusement pas. Si vous avez la traduction du semeur, ils ont traduit ça, eux, par enfin, ceux qui appartiennent à Dieu. Mais les mots, c'est comme il convient à des saints. Alors, souvent, moi, je ne sais pas si vous faites ça. Moi, j'ai tendance à passer rapidement sur ce mot, être comme des saints, parce que des fois, ça nous fait ce mot nous dérange un peu, parce que quand on dit oui, mais il faut vivre comme des saints, on pense oui, mais voilà. Pour d'autres chrétiens, les saints, ce sont des sortes de super chrétiens qui sont morts et que maintenant on ne peut prier. Et nous, on va rapidement pour dire mais non, tous les chrétiens sont des saints. Ce qui est juste. La Bible considère qu'à partir du moment où nous appartenons à Dieu, nous sommes ce que la Bible appelle quelqu'un de saint. Mais ça correspond au statut que Dieu nous a accordé par sa grâce. Parce que Dieu nous dit également que nous devons être saints comme lui-même est saint. Et ce que ce passage nous dit, c'est que si nous sommes réellement chrétiens, nous devons vivre dans la sainteté. Ce qui est saint, le mot qui désigne ce qui est saint dans la Bible, un mot qui désigne donc quelque chose qui est mis à part pour Dieu, quelque chose qui est agréable à Dieu, quelque chose qui peut participer au culte qui est rendu à Dieu. Eh bien, être éveillé spirituellement, c'est considérer que nous devons vivre dans la sainteté, comme des saints, c'est-à-dire que considérer que nous sommes des personnes qui ont été mises à part pour Dieu. Dieu n'est pas simplement là pour nous, c'est pas ça ce que dit la Bible. Nous avons été mis à part pour Dieu, pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, pour témoigner de Dieu. Nous devons considérer que notre vie tout entière, dans tous ses aspects, devrait être un culte agréable à Dieu. Pas juste le dimanche matin, 1h30 par semaine, ou à d'autres moments, peut-être ponctuellement de notre semaine. C'est notre vie tout entière qui doit être un culte rendu à Dieu. Quelque chose qui honore et qui réjouit Dieu. Quelque chose qui plaît à Dieu. Parce que dans le verset 8, il est écrit « Nous sommes lumière dans le Seigneur ». Nous devons, la conséquence normale de ça, hein, des fois on dit, voilà, nous appartenons au Seigneur, nous sommes dans la lumière, nous avons été éclairés. Eh bien, nous devons alors nous conduire comme des enfants de lumière. Si jamais nous demeurons réellement en Christ, si nous sommes dans le Seigneur, nous ne pouvons pas envisager de vivre autrement que comme Jésus ferait à notre place. Si on pense que cette possibilité est envisageable, c'est que nous dormons spirituellement. Si jamais nous vivons dans l'immoralité sexuelle, si nous tolérons de mauvaises choses dans notre vie, si nous plaçons notre espoir dans autre chose que dans Dieu, c'est au mieux parce que nous sommes spirituellement endormis, mais c'est peut-être le signe de quelque chose de pire encore. C'est peut-être le signe que nous sommes spirituellement morts, que notre conversion ne s'est peut-être pas opérée, que nous sommes peut-être religieux, mais que nous n'appartenons pas à Christ. Le verset 5 nous dit quelque chose qui est terrible, hein. Il nous dit que aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et comme certains, Dieu savait d'avance que certains allaient probablement prétendre le contraire, en disant que, mais si, on peut très bien être sauvé et continuer à vivre dans le péché, que les deux sont compatibles, le verset 6 nous avertit que nous ne devons pas croire à de tels mensonges, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement. Car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Qu'est-ce que c'est qui témoigne de la réalité de notre conversion? Qu'est-ce qui témoigne que nous appartenons à Dieu? C'est notre vie de tous les jours. C'est elle qui témoigne de la réalité de la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est comme ça que se manifeste, si nous sommes réconciliés avec Dieu, ou bien si nous sommes encore en rébellion contre lui. Et si jamais nous sommes encore dans le rejet, un jour, nous devons savoir que la colère de Dieu nous atteindra. Alors ce passage ne nous dit pas, attention, hein, faut pas non plus tomber prendre le contre-pied de tout ça. Ce passage ne nous dit pas que nous sommes sauvés par les œuvres. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver, parce que nous sommes tous pécheurs. Ce passage ne nous dit pas que nous ne pouvons jamais pécher. Au contraire, la Bible nous dit que malheureusement, tant que nous ne serons pas totalement régénérés, nous pécherons. Mais ce que ce passage nous dit, c'est que nous ne pouvons pas nous complaire dans le péché. Et il y a une sacrée différence entre tomber, pécher par accident, qu'être conscient que nous sommes pécheurs et de nous y complaire. Et le tolérer dans notre vie. Et si nous tolérons ça dans notre vie, ce n'est pas bon signe du tout. En tout cas, ce n'est pas du tout le signe que nous sommes spirituellement vivants. Ce passage nous dit que si vous êtes réellement sauvé, c'est ça ce passage, si vous êtes réellement sauvé, alors cela doit se manifester dans votre vie. Verset 8, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Si notre rencontre avec Dieu est véritable, alors nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et s'il est réellement présent en nous, alors nous devons coopérer avec lui afin qu'il produise du fruit, son fruit dans notre vie. C'est ce que nous dit le verset 9. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Alors il est possible que votre traduction dise, lui, le fruit de la lumière. Parce qu'en fait, il y a deux types de manuscrits, on va dire les textes majoritaires et puis les textes minoritaires, qui sont un peu plus anciens, et on trouve les deux dans ces textes. Donc certaines traductions, comme la mienne, parlent du fruit de l'Esprit, et d'autres parlent du fruit de la lumière. Mais vu le contexte, les deux peuvent convenir car ils expriment la même idée. Si Dieu vit en nous, l'action de Dieu en nous doit se manifester. Sinon, c'est que nous sommes spirituellement endormis, et c'est très triste, ou bien c'est que nous sommes en réalité morts spirituellement, et ça c'est terrible. Est-ce que nous voulons, parce que lorsqu'on lit ça on peut dire, mais voilà, c'est fichu. Mais non, il y a une suite, mais avant il nous appartient de nous poser cette question. Est-ce que nous voulons continuer à dormir quelque part, puis à mener une vie pépère? C'est peut-être ça hein, qui nous motive. Nous, on vient au Seigneur pour mener une vie pépère. En fait, on veut d'un côté l'assurance d'être aimé, la vie éternelle, mais on veut aussi surtout que Dieu ne nous embête pas, ou pas nous embêter avec Dieu plutôt. Est-ce que c'est ça qui nous motive? Est-ce que ça décrit une relation d'amour avec Dieu? Est-ce que c'est ça qui nous motive, une vie d'endormi, une sorte de vie parallèle, voilà. On rêve de Dieu, mais on ne vit pas avec Dieu. Ou bien ce que nous voulons, c'est goûter à la véritable vie avec Dieu. Parce que quoi que nous ayons vécu jusqu'à présent, nous pouvons vivre autre chose avec Dieu. Ça, on doit bien être conscient que ça. Tant que nous sommes vivants, Dieu nous tend la main. Ça veut dire que nous avons sans cesse cette possibilité de, aujourd'hui et demain, de vivre quelque chose de plus avec Dieu que ce que nous avons connu par le passé ou que ce que nous connaissons maintenant. Mais pour connaître ça, il nous appartient de le vouloir et de le décider. Et c'est ce choix-là, c'est face à ce choix-là que Dieu nous place. Le verset 14 toujours nous dit « Relève-toi d'entre les morts ». Une fois qu'on s'est réveillé, qu'on est conscient de ça, Dieu nous dit, mais relève-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, ne reste pas dans l'état dans lequel tu te trouves. Décide de vivre comme Jésus ferait à ta place. Parce qu'il y a peu, en fait, il y a peu de différence entre la manière de vivre d'un chrétien qui s'est endormi et la manière de vivre de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu. La différence, c'est qu'il y en a un des deux qui, de temps en temps, vient peut-être à l'église ou lit sa Bible. Mais ni l'un ni l'autre ne sont animés par la vie de Dieu qui est en eux. Et l'un et l'autre vont nécessairement finir par tomber, c'est-à-dire par vivre d'une manière contraire à la volonté de Dieu. Mais à ceux qui sont tombés, Dieu dit, ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. À ceux qui avaient cessé de marcher et qui s'étaient assoupis, Dieu dit, lève-toi et remets-toi en marche. Tous, il nous arrive de tomber dans le péché, malheureusement. Eh bien, lorsque cela nous arrive, nous ne devons pas rester dans le péché, mais nous devons absolument nous en sortir, sortir de ça. Nous devons nous relever. Notre modèle, c'est Jésus. Nous, on a ce privilège-là. On a un modèle auquel nous pouvons identifier. Ce modèle, c'est Jésus. C'est lui que nous devons suivre. C'est à lui que nous devons chercher à ressembler. Jésus, lui, n'est jamais tombé dans l'immoralité sexuelle. Si cela nous est arrivé, nous devons nous relever afin de vivre comme lui-même aurait vécu à notre place. Si c'est dans l'adultère, il faut rompre cette relation. Si c'est une sexualité qui se trouve en dehors du mariage hétérosexuel, nous devons nous abstenir. Ce que la Bible appelle la convoitise, c'est-à-dire entretenir également un désir pour quelqu'un d'autre que notre conjoint, ce qui arrive parfois lorsque on est séduit par quelqu'un et qu'on laisse se développer des choses, ou bien ce qui se vit maintenant beaucoup au travers de la pornographie, eh bien nous devons prendre des mesures qui vont nous couper de cette tentation-là. Jésus n'est jamais tombé non plus dans le piège de ce qui est impur. Ce qui est impur, c'est ce qui n'est pas totalement pur sur le plan moral. C'est par exemple lorsque nous disons la vérité à quelqu'un, ça c'est une valeur chrétienne, on dit la vérité. Mais qu'en fait, ce qui nous motive, c'est pas qu'on veut aider cette personne, c'est qu'on veut l'enfoncer et l'écraser. Ce qui nous motive, c'est pas l'amour. Notre motivation n'est pas pure, par exemple. C'est lorsque pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui est juste, eh bien, nous ne disons pas la stricte vérité. Vous savez, des fois, on est comme ça un peu. On dit les choses, mais... Je sais pas, on a un petit sentiment, il dit, mais t'as pas tout dit, là. Ou, mais c'est pas comme ça, tout à fait, que Dieu voit les choses. Eh bien, peut-être que le résultat auquel on va arriver est juste, mais notre motivation n'est pas pure. Jésus ne ferait pas ça à notre place. Nous ne devons pas utiliser des moyens qui ne sont pas purs. Jésus n'est jamais non plus tombé dans la soif de posséder. Jésus n'a pas couru après les richesses, ni après le confort, ni après la gloire, même bien au contraire. Il s'est même dépouillé et humilié. Lorsque nous sommes prêts à tout pour arriver à nos fins, lorsque nous sommes prêts, par exemple, à rabaisser quelqu'un pour cela, ou à nous approprier tout ce qui passe à notre portée, et puis tant pis si ça, en principe ça devait être quelqu'un d'autre. Lorsque nous voulons tout garder pour nous, eh bien, c'est que nous avons quelque part cette soif de posséder. Nous devons, en ces cas-là, décider de ne rien nous approprier de ce qui revient aux autres. Et nous devons, au contraire, prendre la décision de mettre au service de Dieu et des autres les biens que Dieu nous a accordés. L'exemple, enfin, par exemple, l'offrande que nous faisons au niveau de l'Église. Des fois, on se dit, mais ça a seulement pour but de permettre à l'Église de fonctionner. Mais Dieu pourrait utiliser d'autres moyens. Ce n'est pas seulement ça que Dieu vise, mais c'est également le moyen par lequel Dieu veut amener notre propre foi à grandir. Il veut éprouver notre foi et des fois voir si nous sommes prêts à donner. Ça peut être aussi à la mission. Il y a toutes sortes de manières de donner. Mais c'est facile de dire, mais j'ai pas assez. J'ai jamais assez. Mais ça, malheureusement, c'est un mode de fonctionnement. Et c'est Rockefeller qui disait, mais un jour, on lui posait la question, mais c'est quoi pour vous être riche? Et il dit, c'est quand j'aurai 1 million de plus. Être amené à donner une partie de ce que Dieu nous a confié, c'est nous libérer de cette soif de posséder et c'est marquer notre confiance à Dieu. Nous devons chercher à faire comme Jésus ferait à notre place. Et nous ne devons pas attendre d'avoir envie pour le faire. Ça, c'est un piège. Des fois, on transforme notre vie chrétienne avec une espèce de sentimentalisme. « Oh, mais Seigneur, oh, je prie pour que j'ai envie de faire ça. Mais je prie, j'y arrive pas. » Mais des fois, le Seigneur nous dit, mais oh, hé, il nous met un coup de pied aux fesses. Là, il nous dit, lève-toi. Nous devons parfois décider de faire les choses, même si nous n'avons pas envie de le faire. C'est un peu la même chose dans la vie. Hein. Nous réveiller le matin, c'est bien. Mais si nous ne décidons pas de nous lever, ça ne va pas changer notre gros de vie, hein, grand-chose dans notre vie. Hein. On sera réveillé et couché. Bon, ben, on ne sera pas dans la vie. Peut-être on sera encore dans les rêves. Oh, ce serait bien si cette journée se passait de telle et telle manière. Pour Jésus non plus, aussi, des fois, on va voir ça en conscience. Il ne faut pas croire que pour Jésus, c'était facile tous les jours. Jésus a supplié parfois son Père que ce qui est en train de se préparer puisse s'éloigner. Et pourtant, malgré cet effroi qu'il pouvait avoir, eh bien, il y est allé. Ce n'est pas forcément facile tous les jours. Jésus a été tenté comme nous, en toute chose. C'est ce que nous dit la Bible. Mais chaque jour, Jésus a fait le choix de ressembler à son Père. Eh bien, nous aussi, chaque jour, nous devons faire le choix de ressembler à Dieu, c'est-à-dire de vivre comme Jésus ferait à notre place, dans notre situation. C'est alors, verset 14, que Christ t'éclairera. Le mot qui est traduit ici par « éclairer » est un mot qui signifie « manifester »,« refléter ». Et j'aime bien ces deux autres traductions que l'on trouve. On peut traduire celle aussi par « le Christ luira sur toi ». C'est Darby qui traduit ça comme ça. Et puis la colombe traduit « le Christ resplendira sur toi ». Parce que ce dont il est question ici, c'est de laisser Christ refléter sa vie en nous. Notre réveil spirituel et notre décision de chercher à vivre comme Jésus aura pour conséquence que nous permettrons à cette vie de l'Esprit de se développer en nous. Nous coopérons avec lui et nous permettrons à la vie de Christ qui est en nous de se refléter en nous. Ce n'est pas nous qui produirons cette lumière. Le verset 8 nous dit que nous sommes lumière dans le Seigneur. C'est par notre attachement à lui que nous pouvons produire une lumière, ou plus exactement, que nous pouvons refléter sa lumière. C'est en demeurant en Christ, c'est par notre union avec lui, notre intimité avec Jésus, que sa vie se déversera en nous. Et c'est alors que se développera en nous le fruit de l'esprit ou le fruit de la lumière dont il est question au verset 9, bonté, justice, vérité. Et c'est alors que la vie de Christ en nous se manifestera pleinement. Mais pour cela, il nous faut d'abord nous réveiller. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Il nous faut nous lever, c'est-à-dire suivre Christ. Chercher à vivre comme lui-même vivrait à notre place. Je vous invite à quelques instants silencieux afin que chacun de vous, chacun de nous, nous puissions nous mettre devant Dieu et et demander à Dieu de nous aider à apporter un regard sur nos vies et de savoir qu'il nous éclaire sur ce qu'il attend de nous. Seigneur Jésus, je veux te remercier de ce que tu n'es pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Tu nous tends la main, tu es prêt à pardonner nos péchés, tu as donné ta vie pour cela. Mais tu attends de nous que nous saisissions ta main et que nous te suivions. Que chacun de nous puisse faire ce choix de te suivre, afin que ta vie qui est en nous puisse se développer, et que nous puissions goûter cette vie extraordinaire, qui est celle d'être intimement unis à toi, mais qui est également celle qui nous permettra de voir les bons fruits que tu développes en nous. Donne-nous, Seigneur, de faire ce choix chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, et que nous puissions, demain, ne plus jamais lâcher ta main. Amen.